l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence sur le plateau du Larzac. 106.5.
Il est midi, soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de vous accompagner durant votre pause déjeuner pour Présence Midi. Présence Midi avec toute l'équipe en direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Accompagner l'entourage des personnes qui ont des troubles psychiques, c'est la mission de l'association Une à Femme. Une association que nous allons découvrir et qui est basée dans le Gers avec Pauline Cazier, notre correspondante là-bas, qui sera avec nous dans quelques minutes. Et puis, comme chaque mercredi, nous avons rendez-vous avec la littérature et toute l'équipe d'un jour en livre en auteur autour de Philippe Noni. Cette semaine, Philippe a décidé de nous parler de ce livre, de cet ouvrage qui s'intitule L'Atlas des îles oubliées. Ce sera écouté aux alentours de 12h30 et au cœur de ce magazine, c'est bien évidemment l'actualité régionale avec à 12h30 le journal. Mais pour le moment, à 12h02, voici l'essentiel avec les titres à la une et Clémence Roux.
Bonjour à tous. Les incendies en Espagne ont des conséquences jusque dans les Hautes-Pyrénées. Près de 4000 hectares ont été brûlés et des cendres sont même retombées côté français. Airbus envoie des spécialistes en Inde après un incident sur un A320neo. L'avion a perdu brutalement une centaine de mètres d'altitude en plein vol. 17 personnes ont été blessées. Les regards seront tournés vers le ciel ce soir. Une éclipse solaire sera visible dans le sud-ouest. À Toulouse, près de 98% du soleil sera caché par la lune, avec un maximum attendu autour de 20h26. À Toulouse, l'enquête se poursuit après la fusillade mortelle dans le quartier de Bagatelle. Le chauffeur présumé avait déjà été interpellé en Espagne au mois d'avril. Et enfin, dans le Tarn-et-Garonne, EDF veut adapter la centrale nucléaire de Golfech aux fortes chaleurs avec 4 nouvelles tours de refroidissement. Voilà pour les titres de l'actualité régionale de ce mercredi 12 août.
Merci Clémence Roux. On vous retrouve tout à l'heure à 12h30 pour développer ces titres dans le journal régional. Allez, dans un instant, direction le Gers pour découvrir cette association qui s'appelle Une à Femme. Une association qui accompagne l'entourage des personnes qui ont des troubles psychiques. On va découvrir cette belle structure avec la rediffusion d'un entretien qui a été enregistré il y a quelques semaines par notre correspondante dans le Gers.
J'ai déposé mes armes à l'entrée de ton cœur sans combat, et j'ai suivi les charmes lentement, en douceur, quelque part là-bas, au milieu de tes rêves, au creux de ton sommeil, dans tes nuits, un jour nouveau se lève, à nul autre pareil, et tu sais depuis. Peu importe,
Merci de passer l'été avec Radio Présence, vous qui nous écoutez dans notre région. Et durant l'été, nous vous proposons de réécouter les meilleurs moments de l'année. Nous proposons de redécouvrir une association dans le Gers qui s'appelle Une à Femme avec Philippe Subercase et Pauline Cazier.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
L'UNAFAM, l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques, est une association reconnue d'utilité publique qui accompagne l'entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques. Rencontre à cette occasion avec Michel Comte, qui est le délégué régional pour l'Occitanie de l'UNAFAM, et de Christian, qui est bénévole. Ils sont tous les deux au micro de Pauline Cazier.
L'Union nationale des familles et des proches de personnes souffrant de troubles psy, chic. Voilà, qui a été fondée en 1963, un moment assez particulier. C'est au moment où on a considéré que la place des personnes qui avaient des troubles psy était dans la cité. Donc on a voulu développer le soin ambulatoire, l'accompagnement, en mettant en place notamment les CMP, les centres médicaux psychologiques. Et du coup, ça a interpellé les familles, parce que les familles se sont retrouvées au sein du dispositif de santé mentale, puisqu'elles ont eu parfois, malheureusement, quand ça n'a pas toujours fonctionné, à reprendre ou à prendre en charge leurs proches chez eux. Ou voilà, c'est ce qui s'est passé en 1963. Donc nous, notre mission aujourd'hui, c'est celle d'accompagner les aidants. Donc les familles, tous les proches, les conjoints par exemple, alors les pères, les mères, les conjoints, parfois les enfants, ça arrive, quelquefois les grands-parents, quelquefois ça peut être des amis, hein, on est, mais globalement, lors des visites à l'accueil, alors c'est majoritairement des parents qui viennent, et surtout des mères d'ailleurs, les trois quarts sont des mères, hein, qui s'investissent le plus dans l'accompagnement de leurs proches souffrant de troubles psy. Au niveau national, l'UNAFAM, c'est 16 000 adhérents aujourd'hui, en progression. Alors, ce qui veut dire, est-ce que les troubles psy progressent ? Sans doute, mais par ailleurs, la prise de conscience aujourd'hui et la déstigmatisation progressent. Hein, et on le voit bien, parce que 2025, la grande cause nationale, c'est la santé mentale. Hein, donc ça a été construit de cette manière-là et décidé de cette manière-là. On a, au-delà des 16 000 adhérents, on a 1600 bénévoles au niveau national, 359 sites d'accueil. Et en Occitanie, hein, pour parler de l'Occitanie de manière plus précise, on a 1600 adhérents, 180 bénévoles et plusieurs dizaines de sites d'accueil dans chacun des 13 départements. Voilà, donc nous sommes organisés, il y a une délégation régionale qui est basée à Montpellier aujourd'hui, et 13 délégations départementales, dont la délégation du Gers, justement, qui est une délégation qui a, on dira, traversé des moments un tout petit peu plus difficiles à une époque, il y a quelques mois, et qui aujourd'hui se reconstruit, avec la volonté de quelques bénévoles et l'appui de la délégation régionale. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour continuer à aider la délégation à se reconstruire, à reprendre en main les missions, et notamment les premières missions de l'UNAFAM. La toute première, celle qui vraiment fonde l'UNAFAM, je dirais, c'est l'accueil, c'est recevoir les familles, parce que ces familles-là sont en attente parfois de réponses, d'accompagnement, d'explications. On dit mettre des mots sur les mots, hein, M-O-T-S et M-A-U-X. Donc on est là pour ça, pour les accompagner. On a une offre, on pourrait appeler une offre de service quelque part, de la part de l'UNAFAM, que l'on propose au terme, au début d'un parcours d'accompagnement. On a d'autres points sur lesquels nous intervenons. Notamment, nous avons un groupe de parole qui va à nouveau fonctionner au sein du département, là, dans la première réunion est le 16 septembre. Nous avons quelques familles aujourd'hui qui vont y participer. Ce que nous souhaitons, c'est l'étendre à d'autres familles. On est au tout début, mais les choses semblent se présenter de manière plus positive. Le groupe de parole, pour nous, est essentiel, parce que c'est un moment où on peut parler, sur le groupe de parole, et puis partager avec d'autres ce que l'on vit, et donner du sens à une action qui est en train de s'installer.
Pendant ces groupes de parole, quelles sont les personnes qui encadrent ? Est-ce qu'il y a des psychologues,
un ou une psychologue qui est là. Et qui va encadrer, oui, participer et animer le groupe de parole, accompagné d'un coordinateur, d'une coordinatrice, une femme, qui est là pour la partie pratique, la partie administrative, etc., pour s'assurer que tout se déroule bien, parce que le psychologue est vraiment là pour la partie parole, hein, expression des personnes présentes. Donc c'est des réunions une fois par mois, hein, pendant une année, hein, donc, et normalement on renouvelle. L'idée c'est que les personnes puissent pendant plusieurs mois, voire peut-être quelques années, retrouver et redonner du sens à leur vie, et être accompagnées à la fois par l'UNAFAM, mais par les autres aidants. Hein, le rôle, c'est vraiment la notion d'aidant, c'est là-dessus qu'on s'appuie, c'est là-dessus que sont construites toutes nos missions. On a notamment aussi une offre de formation à destination des familles aujourd'hui, qui permettent de mieux comprendre et de mieux s'approprier la maladie de son proche. C'est, pour l'instant, on n'en fait plus dans le GERS, pour les raisons dont on a évoqué tout à l'heure, mais les autres départements de l'Occitanie mettent à disposition les formations qui sont organisées. Il n'y a pas de problème, un aidant peut participer à ces formations. Elles sont entièrement gratuites, ce sont des formateurs formés, hein, mais elles sont entièrement gratuites dans la mesure où c'est de l'argent public, c'est le CNSA, hein, qui nous finance, donc il suffit de s'inscrire, de dire je suis intéressé, et on peut avoir accès à ces formations. On a des ateliers, notamment ce qu'on appelle l'atelier prospect, qui est un atelier très intéressant sur 3 jours, et là qui permet réellement de gérer, si je vais utiliser une expression, c'est de poser son sac à dos quand il est très lourd.
On parle de maladies psy, quelles sont-elles? Évidemment, il doit y avoir un grand spectre.
Pas tant que ça. Nos interventions aujourd'hui, c'est surtout autour de la schizophrénie, la bipolarité, des troubles anxieux sévères, des états limites borderline et les TOC. Voilà, c'est essentiellement là-dessus qu'on est. Parce que c'est les plus graves, c'est les plus importants. Il y en a d'autres, hein, et à la limite, une famille viendrait nous voir pour d'autres troubles psy, on ne les jetterait pas dehors, au contraire, ils participeraient, ils seraient là. Mais aujourd'hui, on a 3% de la population mondiale qui est concernée, donc ce n'est pas neutre, hein, 3% au même niveau à peu près en France et notre région, ce qui fait sur le GERS, on ne doit pas être loin de 6000 personnes concernées par les troubles psy sévères. Donc, ce qui est pas mal, et si on rajoute les familles qui sont impliquées au quotidien, on arrive à 15 000 personnes. Pour un département qui a 170 000 habitants, on est à 9%. C'est pas neutre. C'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu national, c'est un enjeu de bon fonctionnement de la société. Et c'est pour ça que notre grande action aujourd'hui, c'est de déstigmatiser, de dire les personnes avec des troubles psy, c'est des gens qui ont leur place dans la cité. Il suffit de les accompagner, il suffit que l'offre de santé aujourd'hui soit adaptée, mais l'offre d'accompagnement, l'offre médico-sociale, que ce qui est pour nous essentiel, c'est que ce retour dans la cité se passe au mieux, et la notion de rétablissement aujourd'hui est importante. La maladie, sans doute, ne disparaîtra jamais, mais le rétablissement, il sera là pour que ces gens-là retrouvent une vie, retrouvent une estime d'eux, et puissent... Pourquoi pas retravailler? Un certain nombre aujourd'hui retravaillent ou travaillent, ont un logement, ce qui est important. Avoir un toit au-dessus de la tête, c'est essentiel pour vivre. Donc, c'est vraiment nos objectifs aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est là.
Comme beaucoup d'associations, et particulièrement chez vous, vous avez besoin de bénévoles. Alors, je vais me tourner vers Christian. Christian, vous êtes bénévole. Est-ce que vous acceptez de témoigner de votre expérience dans l'association?
Oui, enfin, moi, mon expérience est relativement récente. J'ai été adhérent de l'UNAFAM. Et puis, j'ai voulu un peu rendre ce que m'avait apporté l'UNAFAM. Donc voilà, je suis passé bénévole. Voilà. Donc, dans mon entourage, voilà, j'ai une personne qui est malade. Je participe, je donne un coup de main. On essaie de mobiliser, on essaie d'informer. On va essayer d'accueillir. Voilà. Tout un travail de mobilisation, de sensibilisation, d'information.
Alors vous en cherchez évidemment d'autres, oui, en plus que Christian.
On a quelques autres personnes, hein, effectivement, mais on a besoin de militants. Hein, c'est presque une activité de militants, hein, de gens qui ont envie de s'emparer de ce sujet-là, parce que Quand on vient à l'UNAFAM, on y vient d'abord dans un premier temps, et on y est tous passés, hein, comme Christian, pareil, je suis concerné par la maladie d'une proche. On a tous eu besoin de cette écoute, de ce coup de main que l'UNAFAM nous a donné, et qu'on a effectivement, et je confirme ce que vient de dire Christian, envie à un moment donné de le rendre, mais on le rend aussi pour une raison, c'est parce que ça fait partie de notre construction à nous, nous en tant que proches. Quand on participe aux activités de l'UNAFAM, on se reconstruit. On se reconstruit et on est mieux. Et quand on est mieux, nous, proches, la conséquence, c'est que notre proche malade, il est mieux en général. Il est mieux parce qu'on arrive à recommuniquer avec lui, à retisser des liens, à mettre en place des passerelles. Ça qui est important, ce qu'on dit à des personnes, si vous voulez être bénévole, c'est pour vous, vous allez le faire. Pour votre proche et pour vous, ça va aller nettement mieux. Vous le verrez, au bout de quelques temps, vous sentirez les choses différemment. Et ce parcours, qui était souvent un parcours de galère, mais quelquefois c'est l'enfer, hein, il change, ça devient autre chose. On ne fait pas de miracle, certes, mais on améliore le quotidien souvent aussi.
Est-ce que vous avez constaté depuis quelques années, parce qu'on parle beaucoup de cette jeunesse qui est impactée par, par des maladies, par des dépressions, est-ce que vous constatez en effet une recrudescence des cas ?
Bien sûr. Aujourd'hui, c'est l'un des enjeux de santé mentale dans ce pays, mais pas que dans ce pays, dans tous les pays occidentaux, et après les autres sans doute aussi. Oui, la jeunesse est en souffrance psychique aujourd'hui. Elle a toujours été un peu, le passage de l'adolescence à l'adulte, ça a toujours été un moment compliqué, mais là, elle est d'autant plus que le monde qu'elle voit aujourd'hui est parfois un monde plein d'anxiété. Et en même temps, on a connu l'époque de la pandémie qui a mis en place des coupures sociales. Étaient isolés, les jeunes se sont retrouvés désemparés face à cet événement. On n'y était pas préparé, mais alors eux encore moins. Et aujourd'hui, les modes de communication aussi, par exemple, qui sont très déstabilisants, les réseaux sociaux, qui sont sans doute des choses extraordinaires, mais en même temps, ça peut être aussi la pire des choses. Et les jeunes aujourd'hui sont en contact fort avec ces réseaux sociaux, et ça peut vraiment les affecter. On voit qu'il y a plusieurs paramètres aujourd'hui, hein, qui font que la jeunesse est de plus en plus touchée, nous interpelle, et les jeunes d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Et si on veut que cette société ne souffre pas de ce problème de santé mentale de manière trop forte, il faut s'en emparer. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens, on n'a pas... Alors nous, UNAFAM, on souhaiterait avoir encore plus de moyens, mais on n'a pas au niveau de la politique de santé, malheureusement, alors c'est sûr, ça a progressé si on revient 60 ans en arrière. Heureusement que ça a progressé, mais on est encore très loin. Le travail, il y a encore beaucoup de travail à mener, beaucoup de choses à faire. Et les soignants, souvent, sont avec nous sur ce travail et comprennent de plus en plus que les choses doivent évoluer et que notamment, les aidants doivent être dans le cycle du soin. Ça c'est important. À une époque, on considérait que les aidants, les familles, c'était le problème, mais non, c'est souvent la solution, et ils le comprennent de plus en plus. Notamment, on pourrait parler du programme de psychoéducation, bref, qu'on est en train de développer avec le centre hospitalier d'Auch, entre autres, mais sur l'ensemble de la région et de la France entière, qui est un programme à destination des aidants et qui permet de prendre en charge les aidants au tout début, de manière précoce, une maladie, mais quelle que soit la maladie aujourd'hui, si elle est pris tôt, un cancer aujourd'hui, si elle est pris tôt, c'est toutes les choses de vous en sortir, si elle est pris tard, c'est la même chose. Et pour la santé mentale, c'est la même chose. Plus on prend tôt le problème, plus facilement on le règle. Si on laisse traîner, on met les choses sous le tapis, ben on va se retrouver avec des situations très compliquées.
Alors, les maladies sont relativement dures à diagnostiquer en plus. Je crois qu'il faut de l'ordre pour diagnostiquer, avoir un bon diagnostic, qu'un diagnostic soit posé. Donc, pendant 10 ans, il peut y avoir des phases pour les aidants, pour l'entourage, d'incompréhension, d'anxiété, d'inquiétude.
L'UNAFAM à Auch se situe au 41 rue Jeanne d'Albret. Est-ce qu'il y aura un numéro de téléphone pour se renseigner ?
07 83 54 79 31.
Ah, c'est un site internet.
Un site internet, unafam.org, voilà, sur lequel vous avez accès, notamment à d'autres services, qui sont une ligne d'écoute, d'une assistance juridique, des psychologues. Ça, c'est au niveau national, et toute personne peut y avoir accès, notamment la ligne d'écoute, elle est ouverte à tout le monde, adhérent ou non adhérent. Alors, par contre, petite précision sur la rue Jeanne d'Albret, c'est pas une permanence. Les gens ne peuvent pas se présenter ici, c'est notre siège officiel, mais nous sommes hébergés par l'association tutélaire du GERS, donc on ne peut pas. On pourra faire sans aucun doute à terme des rendez-vous ici, pourquoi pas un jour des permanences à des dates bien prévues. Dans l'immédiat, c'est pas le cas. Donc le mieux, c'est de passer soit par la boîte mail, inafam.org,
par le site internet.
Par le site internet aussi, pour avoir des informations, ou par le téléphone. Voilà, c'est vraiment pour l'instant là. Et puis les moments où on est dans la ville, je dirais, il y a des moments où on va participer à des événements, des forums, des aidants, des choses comme ça, et de venir et d'adhérer aussi à l'UNAFAM, parce que l'avantage quand vous adhérez à l'UNAFAM, vous êtes destinataire de toute l'information diffusée tant par le national que le régional ou le départemental. Et donc on a des réunions régulières des adhérents, cet après-midi on en a une, ça permet d'avoir, de garder ce contact et de ne pas être seul face à la maladie du proche.
Voilà, à l'instant, vous avez entendu Michel Comte, délégué régional pour l'Occitanie et de l'UNAFAM, et Christian, qui est bénévole. Ils étaient tous les deux au micro de Pauline Cazier.
Voilà pour la rediffusion de cet entretien, entretien enregistré au début de l'année par notre correspondante dans le Gers, Pauline Cazier. Vous avez entendu Philippe Cybercaz, vous allez le réentendre dans quelques minutes puisqu'il sera avec toute l'équipe d'Un jour, un livre, un auteur autour de Philippe Nonni. Cette semaine, ils ont décidé de nous parler de l'Atlas des oubliés. Et dans un instant également, Clémence Roux sera de retour pour l'actualité régionale. musique à l'instant, vous avez évidemment reconnu la voix de France Gall. Dans quelques minutes, Philippe Nonni avec Un jour, un livre, un auteur et toute son équipe. Mais pour le moment, on fait un point sur l'actualité régionale. C'est Clémence Roux qui nous rejoint.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, les incendies qui touchent l'Espagne ont des conséquences jusque dans les Pyrénées françaises. Un important feu a déjà parcouru près de 4000 hectares de l'autre côté de la frontière. Plusieurs villages ont été évacués. Dans les Hautes-Pyrénées, des habitants ont également vu des cendres tomber du ciel. Poussés par les vents, sur place, les pompiers restent mobilisés face à la chaleur et des terres particulièrement sèches. Dans l'actualité également, Airbus va envoyer une équipe de spécialistes en Inde. Le constructeur doit participer à l'enquête après un incident survenu à bord d'un A320neo. L'avion a soudainement perdu une centaine de mètres d'altitude en plein vol. 17 personnes ont été blessées. Les spécialistes vont désormais tenter de comprendre ce qui a provoqué cette chute brutale. Et puis les regards seront tournés vers le ciel. Ce soir, une éclipse solaire sera visible en France et le sud-ouest sera particulièrement bien placé pour en profiter. À Toulouse, près de 98% du soleil sera caché par la lune. Le moment où l'éclipse sera le plus important est attendu autour de 20h26. Et si vous souhaitez observer le phénomène, quelques précautions sont indispensables. Il ne faut surtout pas regarder le soleil à l'œil nu, même pendant quelques secondes. Les lunettes de soleil classiques ne protègent pas suffisamment. Il faudra donc utiliser des lunettes spécialement prévues pour les éclipses. Il est également conseillé de trouver un endroit bien dégagé vers l'ouest pour profiter au mieux du spectacle. Et à Toulouse, l'enquête continue après la fusillade mortelle survenue dans le quartier de Bagatelle. Le chauffeur présumé du groupe impliqué avait déjà été arrêté en Espagne au mois d'avril. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer son rôle exact et à mieux comprendre les circonstances de cette fusillade. Et enfin, dans le Tarn-et-Garonne, la centrale nucléaire de Golfech se prépare aux étés de plus en plus chauds. EDF prévoit de construire 4 nouvelles tours de refroidissement. Elles doivent permettre à la centrale de continuer à fonctionner plus facilement pendant les périodes de forte chaleur. Un projet qui doit donc adapter le site aux épisodes de canicule qui se répète. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Belle journée à tous sur Radio Présence.
Et belle journée également à vous. Merci Clémence Roux. Retour de l'info tout à l'heure à 13h avec l'actualité nationale et internationale et la rédaction française de Radio Vatican. Bon été avec nous. Je vous rappelle que samedi, nous serons en direct du sanctuaire de Lourdes dès 10h le matin pour vous faire vivre la messe internationale de l'Assomption présidée par Monseigneur Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, donc entre 10h et midi, ce sera à suivre sur Radio Présence avec au commentaire David Torchala. Dans un instant, eh bien, on retrouve Un jour, un livre, un auteur avec Philippe Nonni. Philippe a sélectionné cette semaine cet ouvrage qui s'appelle L'Atlas des îles oubliées. À écouter dans un instant. Thank you. Bon appétit à l'écoute de Radio Présence et de Présence Midi avec maintenant toute l'équipe d'Un jour en livre, un auteur Philippe Noni, Diego Arrabal et Philippe Subercase pour la rediffusion de l'été.
Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Les semaines s'enchaînent et cette saison radiophonique également, hein, puisque une saison radiophonique, elle est comme les enfants. Elle ne démarre pas en janvier jusqu'à 31, du 1er janvier au 31 décembre, mais de début septembre jusqu'à fin juin.
Et bonjour Philippe Subercase d'ailleurs.
Bonjour
Diego Arrabal.
Bonjour Philippe.
Voilà. Et alors aujourd'hui, vous n'avez pas d'auteur, mais vous allez quand même nous présenter des livres.
Alors, voilà, tout à fait. Je vais vous présenter un livre cette semaine, un livre la semaine prochaine. Alors en fait, on peut pas arriver à avoir l'auteur parce que le livre que je vais vous présenter, pardon, aujourd'hui, c'est une auteure qui est allemande. Et j'ai trouvé que c'était un livre superbe. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai une question à vous poser à tous les deux.
Oui.
C'est, est-ce que vous aimeriez connaître le nom et l'emplacement des îles abandonnées de par le monde entier pour les visiter ou mieux pour y faire une retraite? Alors, j'ai commencé par vous, Diego Arrabal, parce qu'on le sait, vous êtes à la fois le doyen et dans le même temps, paradoxalement, le plus jeune marié de cette émission littéraire. Donc c'est à vous que je vais poser la question en premier. Diego, est-ce que vous aimeriez connaître le nom et l'emplacement des îles abandonnées de par le monde entier pour les visiter ou mieux pour y faire une retraite?
Et peut-être même pour m'y installer.
Ou pour vous y installer.
Non. Avec ma douce étendre.
Non, Diego, je vous rappelle qu'il faut un service d'urgence et de gériatrie pas trop loin. Et qu'il faut quand même calculer le temps d'intervention des secours au cas où. Parce que moi, je tiens à vous et je ne voudrais pas que vous soyez enfermé dans une île où, si vous faites le 18, il vous faut 4 heures avant d'avoir un premier pompier.
Voire plus, parce que vous allez voir que c'est des îles réellement abandonnées. Et vous, Philippe Subercase, est-ce que vous aimeriez connaître le nom et l'emplacement des îles abandonnées de par le monde entier?
En fait, de plus en plus. Parce qu'en vieillissant, on s'aperçoit qu'effectivement, on passe à côté de beaucoup de choses. Et moi, j'adore la mer. Peut-être plus que la montagne, donc être dans une île, alors là je serai au paradis.
Allez, je ne poursuis pas plus loin cette question, alors vu vos réponses à tous les deux, j'en viens au fait, c'est-à-dire au livre, à ce livre fabuleux que j'ai lu, que je m'en vais vous présenter, qui se nomme « Atlas des îles abandonnées » de l'auteure allemande Judith Schalansky, publié en France aux éditions Artaud. Je le précise, hein, ça a été un succès de librairie en Allemagne. On ne penserait pas forcément que les gens auraient envie d'avoir un atlas des îles abandonnées, et pourtant. Alors je vais vous dire aussi où est-ce que j'ai déniché ce petit bijou, tenez-vous bien, je l'ai déniché sur une île. C'est pas banal, hein. Sur une île, à la librairie de l'île du lac de Vassivière. Alors je sais pas si vous connaissez.
Pas du tout.
Le lac de Vassivière, c'est un lac qui est quelque part à la confluence de la Creuse, des départements de la Creuse, de la Haute-Vienne et de la Corrèze.
Dont on parlait la semaine dernière.
Exactement, et dont je vous recommande tout particulièrement la visite parce que on peut en faire le tour à pied. Vous savez que je suis un marcheur invétéré. Et
à ce moment, il vaut mieux pas trop être marcheur.
tout à fait. Ouais. Il vaut mieux pas trop marcheur. Exactement. Oui, c'est vrai.
Bon,
on parlera pas desquels. Exactement. Voilà. On parlera pas desquels. Voilà. Et on ne peut aller sur cette île qu'à pied, sauf les personnes effectivement qui y sont autorisées, c'est-à-dire les personnes qui possèdent la librairie. Et sur cette île, on trouve également donc un musée d'art contemporain, un musée d'art contemporain de la Haute-Vienne, avec à l'intérieur effectivement une librairie. Et c'est là que j'ai trouvé Atlas des îles abandonnées de Judith Schalansky chez Artaud. Donc, vous m'avez bien dit que vous ne connaissiez pas ce lieu, Philippe Subercase et Diego Arrabal, donc je vous recommande de la visiter. Alors, on va revenir à ce livre, Atlas des îles abandonnées de Judith Schalansky aux éditions Artaud. La particularité de cet atlas, c'est de raconter une anecdote qui est propre à chacune de ces îles. Ce n'est pas qu'un atlas. C'est l'angle d'attaque recherché par son auteur, et ce livre en soi est un régal. C'est pour cela que je le présente aujourd'hui, même si son auteur ne peut être présente pour répondre à nos questions. Et je vous propose de lire l'anecdote de l'une de ces îles, qui s'appelle, ce n'est pas un hasard, l'île de la solitude, la bien nommée. C'est en page 24. Et je vais vous lire effectivement ce que ça représente. Je vais à l'île 24. Vous entendez sans doute le bruit des pages qui tournent. Alors, l'île de la solitude, c'est une île russe, d'accord, qui se situe donc Dans ce livre, il y a les îles de l'hémisphère nord et les îles de l'hémisphère sud.
Donc là, c'est l'hémisphère nord, je suppose.
Voilà. Et je vais vous lire donc la particularité de cette île dans l'histoire, dans la manière dont elle est racontée. Solitude est dans les eaux polaires du nord, en pleine mer de Kara. L'île fait totalement honneur à son nom. Déserte, froide, murée dans les glaces d'hiver. Elle a une température moyenne de moins 16 degrés, qui peut monter un peu au-dessus de zéro l'été. Il n'y est âme qui vive. Une ancienne station se dissimule dans la neige. Ces bâtiments abandonnés qui donnent sur une langue de terre au-delà des marais givrés sommeillent au cœur de la baie. On découvrit un jour sur l'île une vertèbre cervicale de dragon préhistorique. Quelques années plus tard, un sous-marin allemand attaquait à la grenade la station météorologique, détruisait les baraquements et tuait le personnel. L'opération Wunderland tirait sur Solitude, une des dernières actions du commando. Reconstruite pendant la guerre froide, l'île devient l'une des principales stations polaires du nom soviétique. Excite le nom dont l'avait baptisé le capitaine de Tromsø, l'île de la solitude devient en russe l'île de la retraite. Je vous parlais tout à l'heure, d'ailleurs, vous voyez à tous les deux, des retraites sur l'île. On n'y est plus voué à la solitude. On y purge en ermite ces années de pénitence glaciaire avant de regagner la terre ferme sanctifiée. Dans les baraquements de bois peints en vert, le gel a conservé les restes de provisions et les instruments qui mesuraient la pression atmosphérique, la température et la direction des vents. L'entonnoir qui recueillait les précipitations est enterré dans la neige. Le mur, à motif de palmier, s'orne d'un lénine à barbichette. Dans le journal de bord, sont rigoureusement consignés les travaux de maintenance du chef mécanicien et les niveaux d'huile et d'essence des différentes machines. Mais l'ultime mention se joue des colonnes. On a marqué au stylo rouge 23 novembre 1996. Aujourd'hui, réception de l'ordre d'évacuation. Évidanger les conduites et arrêter le générateur diesel. La station est 3 points de suspension. Le dernier mot est illisible. Bonjour la solitude. Voilà l'anecdote. Vous voyez,
c'est très beau.
Qui racontait. Ah oui, c'est un livre absolument formidable. Vous savez, la particularité des livres, et je pense que c'est ce qui fait la particularité de cette émission littéraire, c'est de nous emmener vers un ailleurs. Un livre, c'est un voyage, et vous allez voir qu'on va parler d'une autre île. Je vais vous parler de Sainte-Hélène. Ça vous parle, Diego Arrabal, Sainte-Hélène,
oui, ça me dit quelque chose. Il y a un certain ex-empereur qui y décéda.
Philippe Subercase, ça vous parle ?
Je réitère les propos. D'ailleurs, en off, vous avez un peu recadré, puisque vous l'aviez toujours appelé empereur, et Diego, vous avez dit...
Ex-empereur.
Eh
oui, c'est peut-être effectivement nostalgie. Donc effectivement, c'est sur cette île que Napoléon a vécu ses dernières années de vie, loin des siens et loin de la France. Il a justement quitté la France après avoir séjourné du 8 au 15 juillet 1815, on le rappelle, dans l'île d'Aix. Petite île de Charente-Maritime au large de la presqu'île de Fouras, à proximité immédiate de Fort Boyard. Ça vous parle, Fort Boyard ?
Voilà.
L'île d'Aix est à côté de Fort Boyard. Il y a combien ? Il y a même pas un kilomètre, quoi. Il y a 500 mètres, effectivement, entre les deux. Je le précise, il reste encore la maison sur l'île d'Aix qui se visite, maison dont les pendules sont arrêtées à l'heure précise à laquelle est mort l'empereur. Alors, je le précise, je ne dis pas l'ex-empereur, l'empereur, puisqu'au moment où il est mort, c'était du présent. Mais je m'égare. Voici donc, en page 42, Sainte-Hélène, l'île où Napoléon mourut en exil. Une frégate est assurément trop petite, s'indignent les bonapartistes qui réclament une flotte entière. Il ne s'agit rien de moins que de réparer la fronde de Waterloo. Ce n'est pas le vieux compagnon Charon, mais le jeune prince de Joinville qui commande cette mission. Le convoi mortuaire est composé d'un commissaire royal, d'un prêtre, d'un médecin, d'un forgeron et d'un dessinateur. La suite d'honneur comprend quelques fidèles et des serviteurs du temps de l'exil. Tous ont pris la mer pour aller quérir la dépouille d'un homme que l'Europe voulait tenir à distance du continent. La frégate Belle-Poule a été peinte en noir, tout exprès pour cingler vers l'île du défunt. Il a toujours échoué avec les îles. il n'a pas gagné de grande bataille navale, la perfide Albion. Ce n'est pas la liberté qui lui manquait sur cet îlot, mais le pouvoir, la perspective d'un retour sur la scène mondiale. Gardé par un régiment, entouré de ses fidèles traîtres, il résidait sur un haut plateau battu par les vents. Il était voué au martyr, attiré les disciples qui lui écrivaient des évangiles, et il jouait les Prométhée, enchaîné au rocher noir, en écoutant l'écho de son passé figé devenu partie prenante de l'histoire. À minuit précis, les soldats britanniques brisent une grille de fer et trois dalles qu'ils dégagent du sol. À la lumière des torches, ils sortent quatre cercueils d'acajou, de plomb, d'ébène et d'étain, encastrés les uns dans les autres. Ils ouvrent le dernier avec précaution et le docteur soulève le linceul blanc. C'est là qu'il repose. Dans l'uniforme des chasseurs de sa garde, ses décorations sur la poitrine, son chapeau sur les cuisses, comme s'il dormait, calme, serein, le nez déformé, la barbe bleuâtre et les ongles longs, très blancs. Un corps asséché, momifié. Les perturbateurs de ce repos mortuaire sont choqués, les fidèles pleurent. 43 hommes traînent le sarcophage sous une pluie diluvienne jusqu'à la route où on le hisse sur un corbillard recouvert d'un drap violet brodé d'abeilles d'or et d'un N en grande capitale. Trois jours plus tard, le 18 octobre 1840, l'ancre est levée. L'empereur rentre chez lui. Vous connaissiez cette histoire, Philippe Subercase? Et Diego
pas
Arrabal.
Pas du tout, non, non.
Voilà.
Pas du tout, non.
C'est dans ce livre, vous voyez, que je l'ai appris, hein, je le répète, hein, Atlas des îles abandonnées. En fait, sur Sainte-Hélène, elle raconte, effectivement, la vie de Napoléon. Alors, je ne sais pas si vous le savez, c'est Jean-Paul Kaufmann, vous savez, cet ancien donc journaliste français qui a été emprisonné au Liban, donc qui a été détenu pendant des années, qui a écrit un roman qui s'appelle La Maison Noire de Longwood. La Maison Noire de Longwood. Il y a été, c'est cette maison où a vécu Napoléon durant les dernières années de sa vie. On peut encore, elle est visitable aujourd'hui, dans la partie anglaise de l'île, à Sainte-Hélène. Voilà. Et donc elle raconte comment le 18 octobre 1840, l'empereur Napoléon rentre chez lui, donc 19 ans, après effectivement être mort en 1821. Voilà, aujourd'hui on peut le visiter hein, à Paris, hein, vous avez le...
Oui.
Le sarcophage de Napoléon, alors je ne me rappelle plus où il est, je ne sais pas s'il est au Panthéon.
Oui, il est
si...
Alors, il est aux Invalides.
Il est aux Invalides, oui, c'est ça.
Semble.
Il est aux Invalides, voilà, c'est ça. Il n'est pas rentré au Panthéon, me semble-t-il. Et donc, voilà, c'est le 18 octobre 1840, voilà, qu'une troupe repart là-bas, à bord d'un bateau baptisé La Belle Poule, repeint en noir. Et, dans ce livre-là que je vous présente, qui vraiment m'a plu, on ne peut pas avoir l'auteur, voilà, vous avez effectivement. Tout un tas d'îles qui sont présentées de cette manière et qui présentent une anecdote. Je vais vous en lire une autre.
C'est bien aux Invalides.
C'est bien aux Invalides.
Oui, oui.
Voilà, merci Philippe. D'habitude, c'est Diego Sarrabal qui, avec sa petite...
tablette.
Oui, exactement. Ouais, c'est,
oui, mais je n'avais pas besoin de la tablette.
Non. Et je m'excuse d'avoir vérifié.
Non, il faut, mais...
Écoutez, nous présentons des excuses publiques à Diego Arrabal. C'est bien aux Invalides, effectivement, que l'on peut voir le cercueil de Napoléon. Alors, je vais vous lire une autre île, parce que là, vous avez vu que je vous ai lu une première île russe, une deuxième anglaise.
Anglaise, oui.
Hein, et il y a une partie, alors, de mémoire, sur cette île également, qui est une partie française. Sur de mémoire. Et je crois que d'ailleurs que la Maison Noire de Longwood, aujourd'hui, est gérée effectivement par l'ambassadeur de France.
Possible.
Sur place, voilà. C'est une particularité. Parce que je me suis renseigné après l'avoir lu, effectivement. Et c'est vrai que ce livre donne vraiment envie de le savoir. Je vais vous parler de l'île Saint-Paul. C'est une île de 7 km², qui est dans l'océan Indien. Donc là, on part dans l'hémisphère sud. Et je vais vous lire l'anecdote qu'elle raconte sur cette île, parce que toutes les anecdotes qu'elle cite sont savoureuses. Le 18 juin 1871, un navire postal britannique, le HMS Megaera, s'échoue sur l'une des jetées naturelles de blocs rocheux à l'entrée du cratère. L'équipage naufragé gagne la terre où il est accueilli par deux Français. Originaire de l'île Bourbon, il ne parle pas un mot d'anglais. L'un a pour nom le gouverneur, il a 30 ans et une jambe percluse. L'autre, qui se présente comme le sujet, a 5 ans de moins et en excellente condition physique. C'est un remarquable grimpeur qu'aucune paroi ne rebute, si raide soit-elle. Il fait faire de bonne grâce le tour de l'île aux naufragés, tandis que le gouverneur reste assis devant sa hutte au bord du cratère. Le sujet qualifie sans désemparer le gouverneur d'homme extrêmement bon. Le gouverneur, lui, tient résolument son sujet pour un homme radicalement mauvais. Jamais deux créatures ne furent mieux assorties. Ils occupent ensemble une minuscule hutte de bois dotée d'une petite bibliothèque d'ouvrages français et depuis une éternité forment un couple inséparable. Leur tâche consiste à surveiller 4 petits bateaux amarrés dans le cratère, envahis par la mer, et à enregistrer les baleiniers pour un salaire mensuel de 40 francs. Mais presque personne n'accoste ici, tant cette région est redoutée pour ses terribles tempêtes et ses brouillards tenaces. Les canards, les rats et les chats sauvages sont les seuls animaux comestibles vivant sur l'île, et hormis une sorte d'épinard, ils n'y poussent que des lichens, des fougères et des broussailles. Une fois l'an, des colonies de pingouins viennent nicher dans les rares touffes d'herbe qui pointent entre les rochers. Ces oiseaux géants ont le poitrail blanc, le dos gris, les yeux d'un rose éclatant et une aigrette dorée sur le crâne. Ils ne sont nullement sauvages, mais leur chair est immangeable. Un mulâtre est censé avoir vécu ici jadis avec les deux Français. Le bon et le mauvais l'auraient tué, dégusté, et conserverait ses cendres dans cette hutte que le gouverneur surveille jour et nuit. Voilà les anecdotes, alors qui sont savoureuses, qui sont des histoires en tant que telles, dont on pourrait se dire elles ne servent à rien. Et moi, ce qui m'a semblé, et ce qui me semble très beau dans ce livre, c'est que toutes les anecdotes ne servent absolument à rien, et c'est ce rien qui les rend savoureuses.
Tout à fait.
Mais c'est pas la première fois que vous nous parlez de ce livret.
Ah oui.
Vous l'aviez déjà un peu présenté ou donné quelques anecdotes dans différentes chroniques.
Alors, ce qu'il faut dire sur le livre aussi, c'est qu'il y a cette partie où vous avez l'anecdote, mais en vis-à-vis, vous avez une carte de l'île correspondante.
Tout à fait.
Et en timbre, vous avez la position de l'île par rapport au continent de laquelle elle est la plus proche.
Là, par exemple,
il y a une île qui est visiblement au large de l'Amérique latine.
Tout à fait. Là, par exemple, c'est une île, c'est les îles Juan Fernandez au Chili. Donc, c'est l'île dite Robinson Crusoe, qui est espagnole, qui est anciennement l'Isla Mas a Tierra. Je le prononce pas aussi bien que vous, Diego Arrabal, qui est hispanophone. Allez, voyez, par exemple, cette île à 150 km des îles Alexander Selrick, 630 km du Chili, 3770 km de Floriana, je sais pas où c'est. Et ensuite, il y a, une aiguille du temps qui indique quand est-ce que des personnes y ont vécu. Et là, je vais vous lire un passage, vous allez voir, sur le séjour d'Alexander Selkirk, qui a séjourné sur l'île de 1704 à 1708. Et voyez, elle a retrouvé, c'est un travail énorme, ce qu'elle a fait, de retrouver toutes ces îles. Je vous le lis. Le journal de Robinson Crusoe se trouve à Berlin, sur un rayonnage oublié de la Stadtbibliothek Preußischer Kulturbesitz, prétend David Calwell, du Musée national d'Édimbourg. Dans ce navire à livres, tout le monde s'affaire. Depuis 10 ans, les mêmes visages, derrière les encyclopédies, sous le pont supérieur, sous la terrasse au globe de taille humaine. Chaque table est un royaume insulaire. Tous viennent ici pour écrire une page entière par jour quand ça marche bien, une demi-phrase quand ça marche mal. Caldwell est resté un mois complet sur cette île. Tout ce qu'il y a trouvé fut un morceau de bronze anculeux de 1,6 cm de longueur qui se terminait en pointe. Il en est certain. Ce ne peut être qu'une pièce du compas d'Alexander Selkirk, un élément de ses instruments de navigation. Et ce journal, que le corsaire naufragé tenait dans sa solitude, a rejoint la collection du duc d'Hamilton pour être ensuite vendu aux enchères par ses descendants au jeune empire allemand. Le modèle du premier roman de langue anglaise. L'artifice de l'éditeur mêle vérité et fiction, Alexander est devenu Robinson, le cordonnier écossais, un fils de négociant de York qui défie les recommandations paternelles et les 4 ans et 4 mois, 28 longues années, la moitié d'une vie humaine. Le corseur Selkirk est maintenant le planteur Crusoe, que prend régulièrement l'envie impérieuse de partir vers de nouveaux horizons et, sitôt qu'il les atteint, le désir non moins pressant de rentrer au pays. Parfois, on entend tomber quelque chose dans les magasins. Et le soir, quand les travées se dépeuplent, les lamelles des stores des grandes baies pivotent à l'horizontale, striant la vue panoramique sur la place vide de la bibliothèque. Au rayon des manuscrits, on examine le fond. Un porte-parole déclare « Le 4 février 2009 ». Nous avons fouillé ces jours derniers tous les catalogues qui présentaient un intérêt et n'avons rien trouvé. Le journal de Selkirk n'est pas chez nous. C'est une quasi-certitude. Comparé aux archéologues, les écrivains ont la part belle.
Très beau.
Voilà, ce très beau texte, vous voyez, qui est... Et tout le long, on a effectivement ce livre qui présente des anecdotes, qui est absolument fabuleux. Et je me disais, ça aurait été dommage que l'on passe...
à côté de lui.
Vous voyez, ce qui est bien, c'est que à chaque fois, elle raconte un récit comme une nouvelle. Et ce livre se lit presque comme un recueil de nouvelles. Voilà. Vraiment, je vous le recommande. Atlas des îles abandonnées, de Judith Chalansky aux éditions Artaud. Et vous aviez entièrement raison d'en faire la remarque tout à l'heure, Philippe Supercas. C'est vrai que ça faisait un moment que je vous parlais de ce livre et que je me disais, bon, on ne peut pas voir l'auteur. C'est dommage de ne pas en parler. Ben voilà.
Vous l'avez fait. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Nonni, Philippe Subercaz.
Radio Présence dans la Haute Ariège 92.7.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
L'année liturgique comme pédagogie de l'histoire du salut, développe Léon XIV.